Et comme à tous les jeudis, on parle de musique. On dérape un peu sur des choses qu'on aime beaucoup, sur nos passions. C'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs et de bâtir dans Rave dans le Dash. C'est du plaisir pour vous, du divertissement. Vous retournez chez vous après votre journée de travail. Ben, on veut pas se casser la tête, on veut pas se bourrer le crâne, on veut juste relaxer. C'est notre choix qu'on a fait pour essayer de vous accompagner au cours de votre journée. Et j'ai en studio Eric Flynn. Salut.
Allô, Raph. Ça va bien?
Ça va toujours bien. Puis là, j'ai hâte, là. Écoute, à chaque fois que t'es en studio, j'ai du fun, on parle de musique, puis on en apprend ici et là. Puis aujourd'hui, je pense que tu vas en toucher encore plus que d'habitude.
Eh oui, à part de ça, un groupe légendaire, les mauvais garçons de la musique, un groupe anti-star qui ne voulait pas copier les ce qui était à la mode dans les années 80. On parle du groupe légendaire Guns N' Roses.
Guns N' Roses.
Rien de moins.
Oh oui, puis pour vrai, Guns N' Roses, là, c'est... tellement de gens qui, à une époque, voulaient avoir ce look-là pour essayer de se démarquer, voulaient justement sortir du lot, puis qui, quand ils voulaient déranger, ou t'sais, on s'entend que si on regarde ça aujourd'hui, ça dérange pas avoir les cheveux longs, puis avoir un chapeau, un bandana, là, un bandeau, ou quoi que ce soit, mais ils rockaient solide, les gars.
Ouais, ben c'est ça, c'est parce que c'était vraiment... ils étaient vraiment à part de ce qu'on avait... parce que faut se rappeler, au milieu des années 80... même dans la deuxième moitié, c'était les hair bands qui avaient pris la place, les Bon Jovi, Europe, Cinderella, Poison. Et là, on arrive avec Guns N' Roses, qui sont un petit peu plus différents et qui sont vraiment là de leur côté un peu comme les mauvais garçons, ceux qui aiment faire des scandales, créer de la controverse. Tu sais, c'est vraiment là les anti-stars. Eux autres, là, c'était vraiment là, un petit peu les anti-stars. Alors, c'est ça. Et ça, c'est un groupe, imagine, eux autres sont nés en 1985, le groupe, OK? Là, on entend justement Welcome to the Jungle. Et juste pour faire une petite histoire vite sur sur Welcome to the Jungle, ça, c'est une histoire où Axl Rose s'est retrouvé à un moment donné à New York. Et à un moment donné, il rencontre c'est inspiré de cette histoire-là, d'une rencontre avec un sans-abri. Et là, le sans-abri s'est aperçu qu'il venait pas de New York, rien. Alors, c'est ça. Et il a dit, « You know where you are? You are in the jungle, baby. You're gonna die. » Et avec cette phrase-là, c'est comme ça que Axl Rose a toujours présenté la chanson en concert pour la question de l'introduire, là, tu sais.
Ça me donne le goût de sortir ma guitare, mais pas ma vraie guitare. Ma guitare de Guitar Hero.
Yeah.
Et c'est inspiré d'une simple phrase qu'un itinérant lui a dit.
Ouais,
parce qu'il venait pas de la place.
Oui, effectivement. Alors, on va juste m'ajuster un petit peu. Hey, ça fait tellement shaky, Guns N' Roses, ça fait shaky même le micro.
Ben oui, le micro se sauvait, là. Sauvait.
Incroyable, les esprits d'Halloween. Alors, Guns N' Roses, ça, c'est la fusion de deux noms. Hein, si vous vous demandez où ça devient Guns N' Roses, t'as les Hollywood Roses, qui était le groupe d'Axl Rose, et c'est la fusion avec un autre groupe qui est un petit peu plus connu dans les années 80, Haley Guns. Okay. Alors, c'est comme ça qu'on a créé ça. Et Tracy Guns... lui, avec Axl Rose, ils ont décidé de fonder le groupe ensemble.
Tu vois, je savais même pas qu'il y avait une histoire derrière le nom. C'est plus souvent qu'autrement. Oui, il y a des histoires du pourquoi on a nommé ça comme ça. Plus souvent qu'autrement, c'est une anecdote, là.
Ouais.
Ou bien c'est inspiré d'un autre musicien. Tu sais, les Rolling Stones, c'est inspiré d'une chanson de Muddy Waters qui s'appelle Rolling Stones. Muddy Waters, qui a fait longtemps du jazz, du blues, qui est une voix qui est importante dans la scène musicale, si je peux dire ça comme ça. Kiss.
Ouais, avec
tu connais
Lips.
L'histoire?
Ben ouais, Lips, le groupe de Peter Criss juste avant Kiss.
C'est en plein ça. Puis, ben, Guns N' Roses, j'aurais pensé que tu m'aurais dit que c'était une histoire tout simplement, ben, ils trouvaient que ça flashait ou ben que ça lookait, mais c'est vraiment un regroupement de deux bands qui
Exactement,
existaient déjà.
Exactement, tout simplement.
Ah, torpinouche.
Et les Guns, on les a connus dans les années 80, surtout avec des ballades. C'est un groupe hard rock. et The Ballad of Jane. Ça a été leur gros succès dans les années 80. Alors, Hollywood Roses, ça a été un petit peu moins connu. Donc, ils ont parti le groupe avec des membres aussi des deux groupes ensemble. Et aussi, Axl Rose est allé chercher Izzy Stradlin, un de ses vieils amis qui a joint le groupe. Et là, ben, avec d'autres membres, ça n'a pas tellement fonctionné. C'est là l'arrivée de Slash. Tu sais quoi son vrai nom?
Je l'ai juste...
Slash.
C'est quoi?
Soul Hudson, qui est né en Angleterre.
Soul Hudson, ça flash aussi.
Ouais, ben c'est ça, tu sais.
Je l'aurais quasiment pas changé, dire que Slash, ça flash aussi, là, mais ouais. Soul Hudson, ça fait badass. Soul
Hudson. Et c'est un anglais, soit dit en passant. Même si on parle tout le temps que c'est un groupe américain, mais Slash est quand même né en Angleterre de son côté. Et c'est l'arrivée aussi du batteur Steven Adler, que peux-tu me flatter un peu, que j'ai la chance de connaître personnellement.
Ouais. Explique ça, non?
C'est mon ancien collègue de travail.
Ben voyons.
T'as pas ça, hein?
Mais non, vas-y, élabore, là, je suis curieux.
Ben, ce qui est arrivé, c'est que j'ai collaboré avec son agent. Moi, je ne savais pas du tout que le gars, il était agent. Et lui, de son côté, ben c'est ça, il était sur Biz. Et puis, il faisait son petit show de radio, tu sais. Et puis, à un moment donné, David, il me dit, « Ouais, il dit j'aurais du monde qui voudrait faire de la radio, nanana. » Puis là, il a introduit Ron Kill, qui a eu du succès dans les années 80, qui a vendu des millions d'albums, qui a été découvert par Gene Simmons de Kiss. Jack Russell aussi, tu sais, qui a été avec Great White. On les a connus beaucoup dans les années 80. Et eux autres font leurs émissions de radio, puis on commence à introduire ensemble, et ainsi de suite. Là, il me dit, ouais, il dit, j'en ai un autre. C'est un Rock and Roll of Famer. Sauf que, tu sais, il va pas n'importe où, et ainsi de suite. Et puis là, bon, en fin de compte, ils ont choisi quelques stations de radio qui étaient aux États-Unis, une seule radio étrangère, et ça a été justement nous autres là, Biz. Alors, il fait de la radio, puis là, moi, je commence à communiquer avec. Là, j'étais là, wow, Steven Adler. Puis là, il m'envoie un petit jingle de son émission pour me dire, ouais, tu me diras si c'est correct, si c'est pas correct, dis-moi là. Hein? Comment tu veux que je dise
que
Steven
c'est pas
Adler?
Correct, c'est ça.
Alors, comment c'est mauvais, man?
Oh non, c'est impossible. Oh, ah, wow, non,
ben, c'est ça, tu sais, gros malaise. Et puis, il m'avait invité une fois à New York parce qu'il fait de la peinture, il est peintre.
Okay.
Et puis, il y avait une présentation de galerie, puis il m'avait invité, puis tout.
Un vernissage,
ouais. Ouais, et puis on a quand même gardé contact pendant un certain temps, jusqu'à temps qu'il aille en cure, à un moment donné, parce qu'il y a toujours des problèmes de drogue et de cocaïne, et d'héroïne aussi. Et puis, lorsqu'il m'avait invité, ben, il m'arrive une semaine à l'avance, puis là, ben, viens à New York, à la galerie d'art, puis t'es invité, puis nanana, ah ouais, cool. Ouais, ben non.
Sauf qu'ici, j'ai ma petite vie, là, je suis pas Steven Adler.
Je peux pas m'en virer comme sur un
site. Non,
mais c'est quand j'ai vu la liste des invités.
C'est quoi?
Il y avait Bret Michaels de Poison.
Wow!
Il y avait Richie Zambora de Bon Jovi. Il y avait Ted Nugent. Avoir su que Ted Nugent était là, Cat Scratch Fever, je te jure, j'aurais tout fait pour y aller. Tu sais, le rencontrer, juste le fait de le voir, là. Il y avait toute une liste, là, de... Je t'avais étudié Bret Michaels de Poison aussi, qui avait, mais il y avait pas de Guns là, parce que lui il a été en mauvais terme, il a toujours été en mauvais terme d'ailleurs avec Axl Rose, mais il a tout le temps été proche.
Son,
là, de...
est-ce qu'on sait pourquoi?
Ah les caractères, c'est plus
okay,
des
c'est
histoires
d'ego.
Puis ouais c'est ça, mais il a toujours resté en bon terme avec Slash.
Ok.
Ça, puis justement ce qu'on entend c'est Switching Your Mind. Ça, sa chanson là c'était une chanson de pratique de Slash.
Tout simplement.
Qui pratiquait, ouais. Et c'était
pas dédié
ça.
À une composition avant là.
Ben les paroles oui. Okay. Ça c'est
ils ont juste mixé.
Et exactement, les paroles sont inspirées d'une des ex de Axl Rose d'Axel. Une de ses ex. Mais ça au début, c'était tout simplement
pour
question
pratique.
De se dégourdir les doigts. Ben il jouait justement le riff qu'on a entendu là quelques instants avec Sweet Child O' Mine.
Je sais pas c'est quel qui look le plus. Parce que j'ai la vidéo devant moi, là. Ouais. Il look tout, là. Il pue le rock, là.
Ah, ben oui.
Mais dans le bon sens.
Ouais, exactement.
Je pense que c'est Slash.
Ouais.
Ouais, Slash. Parce que c'est le gars tranquille qui fait mystérieux, là.
Oui, puis c'est le rôle qui s'est toujours donné, ça a toujours été le gars qui...
parle pas beaucoup, qui est dans ses cheveux.
C'est ça, dans son monde, ainsi de suite. Il y a quand même Steven qui faisait de la radio. Ben, il a réussi quand même à lui faire une entrevue là, pendant 45 minutes que j'ai encore, là, que je conserve précieusement. Là.
Bien sûr.
Mais il l'a gardé quand même pendant 45 minutes. Puis bon, c'est ça, c'est un petit chum, ça, ça a été plus facile. C'est sûr que si ça avait été...
toi qui faisais... Moi, c'est impossible.
Il aurait refusé, non?
C'est clair, c'est clair.
Parce que d'habitude, il embarque jamais là-dedans.
Il y a plusieurs controverses autour du band.
Oui, justement, lorsqu'ils sont arrivés avec Appetite for Destruction, on pourrait raconter celle-là. C'est que la pochette de l'album, bon, on voit, c'est une croix avec des genres de têtes de mort qui signifient un peu les membres du groupe. Sauf que quand on... À l'époque, c'était les CD. Alors, on ouvrait la pochette de CD, puis on voyait une photo, une genre de dessin animé avec une jeune fille qui s'est faite violer, puis... c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, c'est quand même bizarre. Ben, en premier, c'est que c'était cette pochette, c'était cette photo-là qui devait être la pochette de l'album.
Au départ, mais ils voulaient pas la mettre sur le dessus parce qu'on s'entend.
Ben,
que
les gars voulaient, mais c'est Geffen Records qui sont arrivés, qui ont dit non, 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 regarde, là, vous mettez pas ça, là, tu sais, c'est pas beau, là, tu sais.
Non, 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 non.
Donc, on a décidé de changer ça, mais les gars ont quand même voulu l'avoir pareil dans les feuillets qu'on a de CD.
C'est parce que dans cet album-là, il dénonçait ce genre d'action-là? Ou
pas
c'est quoi le lien?
Mais
c'est quoi le lien?
Je sais pas, non, ça, on sait pas. C'est une photo que les gars voulaient mettre. C'était peut-être un trip de jeunes, un trip de...
Pour provoquer.
Ouais, mais en même temps, oui, parce que le groupe aimait toujours provoquer, surtout Axl Rose. Axl Rose avait toujours besoin de provoquer quoi que ce soit. Ils ont causé une émeute à Montréal à cause de lui, tu sais. C'était en août 92 avec un concert de Metallica. Il y a eu de la casse au stade olympique là, à cause d'Axl.
C'est pourquoi déjà? Hein?
Ben, ce qui est arrivé, c'est que Metallica faisait la première partie.
Oui.
Et puis James Hetfield, il a presque pas joué parce qu'il avait mal à la gorge et puis il filait pas. Et ensuite, c'était Guns N' Roses qui embarque sur scène, mais là, t'attends, le monde commence à s'impatienter. Et puis là, Guns N' Roses embarque sur scène, puis là, Axl, il dit, je suis au bout de deux chansons, je file pas, puis on s'en va. Imagine, là, le monde est craqué, puis ça fait des heures, t'attends. T'as Metallica, t'as un qui s'est brûlé, je pense que c'est James Hetfield qui s'est brûlé. Puis l'autre, il a prétexté qu'il avait mal à la gorge, c'est ça. Alors, c'est ça, James Hetfield s'est brûlé pendant le concert. Alors, c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle qu'ils ont dû arrêter le concert. Et lui, il est arrivé, puis il a dit, j'ai mal à la gorge, je peux pas chanter, j'arrête de chanter, puis bye tout le monde, je m'en vais.
C'est plate, parce que, tu sais, maintenant, on s'imagine les gens dans la salle, dans la foule, qui ont payé pour leur billet, puis il y en a des fois qui ont payé pour voir la première partie, là, ou voir les deux, puis finalement, t'as juste une toune et demie, deux tounes, c'est sûr et certain qu'il y en a qui a la colère à...
Puis,
prendre dessus. Là.
T'attends, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu vas rechercher de la bière.
Axl, lui, il avait provoqué?
Ouais, ben, il avait prétexté qu'il avait mal à la gorge, qui était pas vrai du tout. Okay. Puis, il a dit, ça me tente plus de chanter, bye bye tout le monde. T'sais, simplement. Ouais. Puis, un an avant, presque jour pour jour, il y a eu la même chose au Bush Memorial Stadium à Saint-Louis. Exactement la même chose, une autre émeute qu'il y a eu du côté de Saint-Louis. Aux États-Unis. Et la même chose au Stade olympique à Montréal. Là, t'as 50 000 personnes qui sont en colère. On a encore les images sur YouTube. Là,
c'est un problème relié à de la consommation?
Ah oui, parce que les gars t'estone, là, tu sais. Pour te donner une idée, Stephen Adler, il a été mis dehors après, justement, au début des années 90, parce qu'il était trop... problème d'héroïne, tu sais, les gars, c'était vraiment une bande de malades, là, tu sais, c'était fou leur affaire, là, tu sais, c'était pas des sages, c'était pas des anges, puis le but était de provoquer, puis
provocation vers musique.
C'est ça, provocation vers la planète au complet, et eux, en plus, ce qui est salivant encore plus, c'est que les fans aimaient ça, les fans en redemandaient.
Ben oui, fait que ça les craquait.
C'est ça, exactement, tu sais, c'était les fans qui influençaient, justement, le groupe Guns N' Roses, qui, en passant, ils ont vendu 27 millions d'albums à Appetite for Destruction, qui est le premier album le plus vendu de l'histoire de la musique. Imagine. Ça, il n'y a personne qui a fait ça encore.
Personne.
Pis ça, ben, c'est la seule chanson où ce qu'on entend des synthétiseurs dans l'histoire de Guns N' Roses.
C'est vrai, hein?
Ouais, Paradise City.
Ouais, c'est ça, quand t'écoutes ça dans ton véhicule ou chez vous, t'as pas le choix de porter des lunettes fumées, hein, même s'il fait... même si c'est sombre.
Ouais, même s'il fait noir. Yes.
Ils ont eu la gloire aussi, hein?
Oui, effectivement, la gloire, la fortune. Et ça, ça lui a bien rapporté avec 27 millions d'exemplaires de vendus. Donc, Stephen Adler, dehors, on le remplace par Matt Sorum. Lui, il était avec The Cult. On les a connus surtout avec Firewoman, là, tu sais. The Cult aussi, le chanteur, il a remplacé dans les années 90 aussi Jim Morrison, quand on a fait les Doors, tu sais. Alors, c'est un ancien des Cult qui a pris la place de Stephen Adler.
Est-ce que ça avait fait réagir beaucoup les fans? Mais de façon négative ou bien ça avait bien été reçu à l'époque?
Non, ça a bien passé parce que, okay, tu sais, dans le fond, c'était pas Slash. Si ça avait été Slash ou Axel,
ouais, qu'il fallait pas toucher à ces deux-là.
Il y aurait eu plus d'impact. Tandis que là, c'est Steven. C'est sûr que le batteur est important, mais l'importance de Steven avec le groupe, c'est pas comme Tommy Lee, par exemple, avec Motley Crue, là, mm-hmm, ou Phil Collins avec Genesis, par exemple. Okay. Tu sais, c'était, oui, il était important, mais le groupe pouvait vivre sans lui. Là,
Maiden est un autre exemple avec Bruce Dickinson.
Oui.
Oui.
C'est ça, c'est ça.
L'ancien, excuse-moi, j'oublie son nom, je suis pas bonne des noms. Là, l'ancien,
ah,
le
Nico
premier
McBain.
Oui, c'est en plein ça. Le premier, okay, chanteur de Maiden.
Oui, ah, Tony. Dinao.
Quoi?
C'est Dinao.
Dinao, ah ouais, ok, t'as peur.
Ouais, Dinao.
Moi, les voir, voir si je
prononce.
Premier
chanteur de Maiden qui est en chaise roulante aujourd'hui. Ouais. Là. C'est ça.
Oui, c'est ça, c'est Paul Dinao.
Dinao, c'est ça,
c'est
Paul.
C'est en plein ça, oui.
Yes.
Souvent, il y a des gens qui l'oublient, là.
Oui.
Mais à cause que, tu sais, techniquement, Bruce Dickinson, si on regarde toutes les années, il a été plus longtemps là, même s'il est arrivé après, là.
Exact. Puis il y a eu trois chanteurs pour Maiden aussi. Ouais. Il y a eu Blaze Bailey qui a essayé avec l'album X Factor. Et ça n'a pas été un gros succès.
New. On retourne à Guns N' Roses?
Yes! Début des années 90, on avait hâte qu'ils sortent un nouvel album. Bien sûr, on a eu un petit album live qui ont sorti après peut-être Full Destruction, qui est un peu sur ce qu'ils ont fait même comme album démo au tout début. Alors, des extraits live. C'est ça. Mais sauf que là, on arrive avec Use Your Illusion 1 et 2. Deux albums en plus qui vont sortir. Et un autre record qui a jamais été battu. Les deux albums ont été numéro 1 et numéro 2 au Billboard dans les ventes à travers la planète. Et ça a été un record pour la première fois, et c'est la seule fois qu'un groupe a réussi à avoir les deux premières positions sur les ventes d'albums à travers la planète.
Honnêtement, je savais qu'il y avait des records là, concernant Guns N' Roses, mais pas à ce point-là.
Ouais.
Tu sais, le 27 millions d'exemplaires, je savais pas que c'était eux, puis qu'ils avaient jamais été battus. Mm. Puis on s'entend qu'aujourd'hui, c'est plus difficile à battre parce que de nos jours, on a les Spotify, on a toujours les radios qui sont là, mais on a encore les albums, mais c'est très rare. Hein. Tu sais, on entend, à part les passionnés qui veulent absolument avoir des CD ou des vinyles, il y a pas grand monde qui achète les albums. Puis encore aujourd'hui, si on regarde l'ancienne méthode de faire de Apple puis de Android, on pouvait acheter les albums, ça pouvait être considéré comme une vente d'albums.
Exact.
Mais ça se fait plus.
Non.
Ça se fait plus. Ils sont tous en train de fermer ce service-là pour pouvoir les écouter, faire des écoutes en ligne, puis qu'ils sont payés à l'écoute. Donc vendre physiquement un album, c'est un record qui va être difficile à battre, là.
Yeah, je te donne un exemple, 10 secondes, là, vite comme ça. Il y a un groupe aujourd'hui, ils ont sorti un album, ils ont sorti leur nouvel album, Draconian, OK, qui est un groupe gothique metal, là, suédois. Et ils sortent leur album, ils nous présentent des liens pour aller écouter l'album, que ce soit Spotify ou les autres. Puis là, t'arrives, là, t'as la liste des chansons. Tu peux écouter les chansons comme tu veux, le nombre de fois que tu veux, puis donne quoi d'acheter l'album? Tu peux l'écouter là, tu sais, c'est ça, tu sais, en même temps. est-ce qu'ils se tirent un peu une, tu sais, ils se tirent une balle dans le pied ou
Bon, ça va vers ça, ils ont pas même le choix maintenant, ouais. Tu sais, avant les groupes, ça a changé beaucoup le monde de la musique, parce qu'avant les groupes faisaient leur argent avec les albums qu'ils vendaient, parce que c'est pas tout le monde qui avait accès à voir leurs concerts, parce qu'ils voyageaient pas autant qu'aujourd'hui pour pouvoir donner des shows tout autour du globe. Mais aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Les gens ont accès à la musique facilement, donc ils font l'argent avec leur tournée.
C'est
ils
ça.
Font l'argent avec leurs marchandises, leurs merch dérivés, qu'on appelle, leurs produits dérivés. Donc, leurs gilets, leurs casquettes, leurs ci, leurs ça. Donc, avant, c'était l'album qui faisait de l'argent. C'était pas les concerts, c'était pas les tournées.
C'est ça.
Mais là, c'est rendu l'inverse. Donc, tu sais, quand on parle, désolé, je vais pas choisir même de faire un petit clin d'œil là-dessus, mais de la pandémie qui est douloureuse pour le marché des artistes, même ceux qui sont archi millionnaires.
Quelle pandémie?
La pandémie?
Tu parles?
Oh oui, j'ai juste 4-5 masques dans mon manteau que je traîne. Mais non, c'est ça, ça a un impact sur cette industrie de la musique-là, parce que, puis sur plusieurs autres industries, parce que justement, c'est la tournée qui est payante, c'est plus les albums, c'est quasiment ça. Donné aux utilisateurs maintenant.
Ben ouais, exact, exact. Tu sais, c'est ça que je trouve dommage, parce que là, si je veux m'acheter un single ou si je veux m'acheter quoi que ce soit, ben j'ai tout, autrement dit, tu sais, je tape puis j'ai directement par le lien, par la page Facebook du groupe, ben bang, tu sais, j'ai tout là, tu sais, juste à ouvrir la bouche et bingo, tout rentre. Donc pourquoi j'irais courir à mon marchand de disques dans ce temps-là? Tu sais, c'est moins tentant, mais à moins que t'es vraiment un vrai fan et que là tu veux l'album, ben là c'est ça que tu vas faire. Tu sais, moi je vais acheter à peu près une douzaine d'albums par année.
Ouais,
je les achète parce que c'est des groupes que j'adore. C'est des groupes que j'affectionne beaucoup. Ou je vais encourager, par exemple, même mon oncle Serge. Aussitôt que mon oncle Serge va sortir quelque chose, ouais. C'est sûr, moi, c'est un devoir d'aller l'acheter parce que c'est mon oncle Serge. Et c'est la même chose avec quelques groupes que je me fais un devoir
Mais
de le
avant,
faire.
Mais avant, on avait, même si c'était pas un groupe qu'on affectionnait énormément, parce qu'on l'aimait un peu ou qu'on l'aimait tout court, on allait chercher l'album parce que c'est le seul moyen de l'avoir chez soi.
Exact.
Mais maintenant, les gens prennent des décisions que s'ils veulent vraiment encourager ou qu'ils veulent l'avoir vraiment physiquement parce que c'est des passionnés, là, ils vont se déplacer pour. Mais sinon, la majorité des gens vont apprécier la musique, mais ils vont passer vite à autre chose.
Exactement. Et justement, parmi les chansons, il y a eu un paquet de hits dans les deux albums de Guns N' Roses. On retrouve aussi une bande sonore du film Terminator 2 avec You Could Be Mine. On a aussi Don't Cry, une grande ballade, une pièce d'Eric Clapton, Knocking on Heaven's Door. Et bien entendu, le grand classique November Rain. Ça, là, ça, c'est une des plus grandes ballades de l'histoire de la musique. Là,
ouais.
Tout court, là, c'est... Comme disait Mario Lemieux, c'est quelque chose.
C'est quelque chose.
C'est quelque chose.
Hey, juste ce vidéo-là, là, vu 1,456,426,050 visionnements.
Ouais.
Depuis 2009.
Imagine.
C'est une vidéo qui n'a pas été publiée là, avant. Là.
Un autre record. C'est la plus longue chanson à avoir fait son apparition dans le top 10 du Billboard.
Ah.
La plus longue chanson.
Ah ouais, bon, on va l'avancer un peu parce que c'est vrai que c'est long.
Ouais.
Ça dure 9 minutes.
C'est une
hein?
chanson qui date quand même de 1983. C'est que Axel a toujours travaillé sur cette chanson-là, mais il savait pas comment la bâtir vraiment à 100%. Mais elle existait sur papier depuis 1983.
Ah, ouais. Puis elle a été publiée, répète.
Ça, c'était en 91.
Oh, ça fait du temps quand même, 8
ans.
Ouais. Il y en a qui ont eu leur premier slow là-dessus.
Ouais, première peine d'amour aussi.
Oh oui, c'est vrai.
Et pour revenir un petit peu avec la chanson, il y a une scène où on voit, c'est à peu près un petit peu après la moitié de la chanson, il y a une scène où on voit Slash avec sa guitare, il sort de la chapelle, c'est à peu près comme dans le désert, et puis Vous pouvez même taper sur YouTube, là, slash November Rain, sign. Vous allez l'avoir directement. Et là, tu vois Slash, puis là, il fait un solo de guitare. Et puis, ça a été... même le groupe a gagné même des prix Grammys, étant la plus belle sign de tous les temps au niveau des vidéoclips. Ben, ça a été remis par Grammy, et ça a été aussi considéré par MTV étant la plus belle scène de l'histoire de la musique dans un vidéoclip.
Simple et efficace. Hein?
C'est simple, là, tu sais, parce qu'il y en a un qui m'a dit, ouais, mais oublie pas Michael Jackson avec les danses dans Thriller. Oui, c'est vrai, mais sauf que ça a coûté des millions et des millions et des millions pour Michael Jackson faire cette vidéo-là. Tandis que là, oui, c'est sûr que ça coûtait de quoi, mais cette scène-là, c'est simple, là. Tu peux le faire quasiment gratuitement, là. Si Slash, il ne demande pas de cachet, là.
Non.
Tu sais, c'est très, très simple, là. Puis, en plus, il dit, tu t'en vas faire un solo de Git, là. Ah, ouais, cool. Tu sais, c'est ça.
C'est
là.
Justement là.
Ouais, c'est ce solo-là, en plus. Tout un solo de Slash.
Simple et efficace.
Exactement.
Les images sont impressionnantes, là.
Ouais.
C'est bien juste un guitariste dans un désert à côté d'une chapelle.
C'est ça.
Mais c'est magnifique.
C'est ça. C'est magnifique à voir. C'est ça. Tu sais, c'est Slash. Tu sais, y a un petit côté qui ajoute, là. Tu sais, c'est vraiment, là. C'est magnifique, ouais, effectivement. Oh, ouais. Alors, on pourrait continuer pendant des heures, c'est sûr. Mais après ça, ça a été le début de la fin, le déclin. Là, Axel commence un petit peu à niaiser durant les années 90. Oui, on va faire de quoi, là? Ouais, restez là, on va faire de quoi, là? Ça niaise. Pendant ce temps-là, Slash se tanne et va fonder avec plusieurs des ex-membres de Guns N' Roses et aussi avec Scott Whelan de Stone Temple Pilots, le groupe Velvet Revolver, qui ont eu du succès dans les années 2000. Pendant ce temps-là, ça brette encore avec Axel. Et là, ben, il se trouve des musiciens de studio. Et là, c'est ça. En fin de compte, en 2008, il a sorti Channels Democracy, qui est c'est sûr que, tu sais, c'est pas Slash, c'est pas les vrais gars de Guns qui sont là-dessus. C'est comme un groupe hommage à Guns N' Roses, dans le fond. Et un autre record, 14 millions, ça a coûté la production de cet album-là. Malgré le flop, là, ça a coûté 14 millions. C'est la première fois qu'un album aura coûté aussi cher en production. Donc ça a été un record, mais pas dans le bon sens.
Ouais, pas dans le bon sens. Ça arrive dans le domaine du cinéma aussi. Hein?
Ouais.
Un film qui fait pas leur argent ensemble.
Ben, c'est ça en plus. On pourrait parler d'eux pendant des heures et des heures et des heures. Est-ce que Guns existe encore? On a vu même Steven Adler a participé avec le groupe voilà, 2 ans. Alors, on croyait un retour, mais non, c'était juste... ce que Adler a dit, c'était juste pour faire plaisir à Slash, pas plus que ça, mais il se regardait même pas, il se parlait même pas, lui puis Axel, pour juste pour donner une idée. Bien entendu, il y a eu l'insuccès avec AC/DC pour Axel Roses, qui aussi n'a pas fait attention à sa santé aussi. Ça, c'est l'abus au fil des années. Mais en tout cas, on pourrait quasiment refaire une partie 2 un jour, là. Qu'est-ce que ça va donner
beaucoup
une partie 2 sur
Guns? Il y a des bandes, là, comme ça, qui ont tellement d'anecdotes, ont tellement de vécu, puis, écoute, juste de rappeler le concert à Montréal où il y a eu la fameuse émeute, c'est des souvenirs. Il y a des gens qui étaient sur place, qui se sont déplacés pour aller voir ça, là, à l'époque, là. C'était en 92.
Ouais, 92. C'est ça, 92. Puis, c'est ça. James Hetfield, ça, je viens de me souvenir, c'est une affaire de pyrotechnique, là, qui l'a brûlé pendant le début du concert et il a dû arrêter de jouer, là, parce qu'il s'est brûlé, tout simplement. Mais tu sais, ça, le monde comprenne. Tu sais, il voit l'accident, puis bon, OK, tu sais. Mais là, c'est justement lorsque le groupe a fait une petite tournée, justement, c'était les tu sais, le concert est cédulé à 20h, mais Axel, lui, parce que ça y tente, on commence le concert à 23h15 ou à 23h50. Au Colisée, lorsqu'ils sont venus, voilà, quelques années, ça a été ça, là. Il est arrivé à 11h20. Mais c'est parce que là, t'attends, toi, là. Tu sais, les gens attendent, puis c'est ça.
Il prend pour acquis son public.
C'est ça, exactement.
Avant de te laisser, Eric, t'avais quelques nouvelles. On va en passer quelques-unes. ICDC qui sort un nouveau clip.
Oui, ils ont sorti le vidéoclip de la chanson Shot in the Dark de l'album qui vont sortir au mois de février prochain. Alors, on a eu la chanson il y a à peu près 2 semaines. Oui. Là, on a maintenant le vidéoclip officiel.
Et Scorpions, un nouvel album à venir.
Oui, ben eux autres, c'est pour selon Blabbermouth. En 2021, on va avoir du nouveau stock de Scorpions.
Si on veut plus d'Eric Flynn, on veut plus d'actualité ou de nouvelles et peut-être de podcasts aussi concernant la musique, on fait comment?
Oui, Radio-Québec.biz, là-dessus on jase de musique, là, justement. Là. Puis on touche beaucoup le vieux rock, mais aussi le récent surtout.
Merci beaucoup, Eric.
Ben merci, Raph.
À la semaine prochaine.
Bye-bye.